genevactive.ch.
André Rochat, ce livre est un long aboutissement.
Oui, j'ai commencé pendant l'été 1987 et j'ai mis 18 ans pour l'écrire. Il manque un volet de mes missions dans ce livre. Je n'ai pas eu le temps de l'écrire. C'est la région d'Aden, l'ancien protectorat britannique.
Voilà, et vous avez attendu toutes ces années pour écrire ce livre. Alors, bien sûr, c'est la question pour publier ce livre, donc c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi tellement d'années? Pourquoi ce silence depuis 1971?
Pourquoi tant d'années? Disons que le contenu même du livre explique que c'est un poids très lourd à porter. Et il y avait d'une part le devoir de réserve, que j'ai totalement respecté, ce que tout le monde n'a pas fait. Et il fallait que j'attende assez longtemps pour justifier le fait d'écrire et de publier, donc que j'arrive à un certain âge de maturité aussi pour m'exprimer. Et puis, il ne fallait pas attendre que je ne sois plus là, car on pourrait contester ce que j'ai écrit, ce qui n'est guère possible.
Bien sûr. Alors justement, quelle était la perspective en écrivant ce livre, d'abord par rapport à vous-même? Est-ce qu'il s'agissait d'un hommage à Henri Dunant ou un témoignage aux générations actuelles d'un temps qui vous semble plus ou moins révolu?
Vous savez, chacun sait, pour ceux qui me connaissent un peu, que j'ai revendiqué depuis le début, je crois, ma filiation à Dunant. Tout simplement parce que de Dunant, tout est parti du geste presque accidentel d'Henri Dunant, génial et incroyable, duquel est sorti le futur comité international de la Croix-Rouge, même si ça n'a pas été immédiatement le cas. On ne peut pas ignorer aujourd'hui le nom de cet homme-là.
Et vous regrettez que les choses aillent justement vont en changeant. Vous estimez que la personne sur le terrain a de moins en moins de pouvoir. Alors justement, est-ce que vous vouliez témoigner d'une période où on pouvait encore prendre des initiatives face aux jeunesses actuelles?
Oui, vous savez, le but de mon discours n'est en tout cas pas de porter un jugement sur les missions du CICR actuel. Je ne me permettrai pas cela. Le monde actuel est totalement différent de celui que j'ai connu. Il est surtout beaucoup plus dangereux, plus complexe, et il fait partie de la mondialisation. L'humanitaire n'y a pas échappé. Il est vrai qu'aujourd'hui, les délégués du comité international n'ont plus la même autonomie que celle dont nous avons disposé.
Alors justement, par rapport au siège du CICR, vous êtes à plusieurs reprises très amer dans votre livre, contre les membres du comité au siège, et vous nommez d'ailleurs souvent les gardiens du temple. Alors quelle était réellement la perspective? Enfin, est-ce que vous étiez pacifié ou est-ce qu'il y avait encore une révolte au moment de publier ce livre aujourd'hui?
Je crois qu'il faut que nous gardions raison sur mes états d'âme à l'égard du CICR. Vous savez, il y a trois entités. Il y a le comité, les membres du comité, le collège. Au-dessus d'eux, il y a l'institution sacrée et irremplaçable. Je l'ai dit de nombreuses fois, c'est écrit 16 fois dans mon ouvrage. Et il y a les hommes de terrain. Le siège et le terrain sont deux entités qui, selon moi, n'ont jamais, au cours de toute l'histoire du CICR, eu une relation telle que je l'aurais idéalisée. Être beaucoup plus proche, beaucoup plus soudé. Et les gardiens du temple, c'est une recherche que j'ai trouvée dans Saint-Exupéry, qui parle des pierres qui ne sont que pierres, mais lorsqu'elles s'assemblent, elles deviennent temples. Eh bien, il faudrait que le temple soit solide entre le siège et le terrain. C'est un peu ma démarche.
Et au sujet d'une relation que vous évoquiez à de nombreuses reprises également, c'est-à-dire la relation difficile entre la politique et l'humanitaire, alors vous avez été placé peut-être malgré vous devant l'histoire, les attentats, les prises d'otages d'Athènes, de Zarqal, l'émergence d'un terrorisme international de grande envergure, et vous avez pris des initiatives politiques et diplomatiques sans avoir le temps d'obtenir et d'attendre l'aval du siège à Genève. Alors peut-on dire que l'on est condamné, si on agit sur le terrain des droits de l'homme et du droit humanitaire, à faire de la politique malgré soi?
Alors, soyons bien clairs, l'humanitaire n'existerait pas sans les politiques. C'est du reste assez malheureux, mais c'est comme ça. Et les politiques, grand P, lorsqu'ils sont en charge d'un pays et de la raison d'État, sont bien souvent de mauvaise foi vis-à-vis de l'humanitaire, que cela soit dit clairement. Et c'est là tout le rôle combien délicat des délégués du CICR, conscience même de l'institution sur le terrain, que d'essayer de marier l'eau et le feu. Voilà pour ce qui est des initiatives des délégués. Quant à parler d'initiatives politiques, en tout cas pas, ce furent toujours des initiatives humanitaires. C'est dans le droit d'initiative du Comité international de la Croix-Rouge. C'est écrit dans les règles, les conventions de Genève. Le CICR a un droit d'initiative. Ce droit d'initiative, quand on envoie des délégués sur le terrain, ils disposent d'une délégation. Il faudrait que des délégués qui sont responsables d'une mission, en charge et avec une autorité qui leur est conférée, puissent prendre des initiatives sans que cela soit toujours absolument nécessaire de demander au siège l'autorisation. Il est vrai que l'affaire d'Athènes, puisque vous venez d'en parler, qui a été un détournement d'avion assez dramatique, a vu l'initiative d'un délégué général qui propose ses bons offices au dictateur grec de l'époque, et cela l'a entraîné dans une situation qui s'est emballée dès les premières minutes et qui n'a plus laissé la place à des conférences par téléphone avec le président du CICR ou quelques autres personnalités de Genève. C'était plus possible.
C'est une chose qu'on vous a quand même beaucoup reproché par la suite, au niveau du siège à Genève, justement, d'avoir pris ces initiatives. Finalement, vous aviez réussi, mais vous n'étiez pas reconnu.
Mon initiative n'a jamais été acceptée par le siège du CICR. C'est une vérité de polichinelle. Cela m'a coûté tout simplement ma carrière. C'était prévu et programmé, mais disons, il a fallu un peu de temps pour me prier de m'en aller, puisque j'ai quitté l'institution 268 jours après l'affaire d'Athènes.
Ouais, on vous a rappelé quand même après. On a eu besoin de vous de nouveau, justement, dans l'affaire des Arcas.
On ne m'a pas rappelé après. On m'a, après l'affaire d'Athènes, c'est-à-dire 47 jours après, il y a eu le plus grand détournement d'avion de l'histoire, dont une bonne partie s'est déroulée à Zarqa, l'aéroport de la Révolution, comme on l'a appelé, en Jordanie. Et il est vrai que, en dehors de ces trois avions dans le désert jordanien, il y a eu un jumbo jet de la Pan American Airways qui a explosé sur les pistes du Caire, et un avion d'El Al, tentative de détournement qui a échoué avec mort d'homme dans l'avion, en cours de vol et emprisonnement de la fameuse Leila Khaled, qui est aujourd'hui une personnalité des Palestiniens.
Tout à fait. Je voudrais vous faire évoquer le pont CICR. Lors de votre mission au Yémen, donc pendant le conflit armé entre les royalistes soutenus par l'Arabie Saoudite et les révolutionnaires aidés par l'Égypte de Nasser, vous avez mis en place ce que vous avez appelé un pont CICR. Donc c'était une manière de créer des liens entre le CICR et les tribus, une forme de relation réciproque, afin de sécuriser vos activités et la vie des civils. Alors, que permettaient réellement ces négociations avec les tribus, puisque finalement c'était quand même une initiative assez audacieuse?
Il faut que je sois court, sans doute, pour vous parler de la relation avec les tribus. Disons que dans certains pays islamistes fondamentalistes, il y en a un certain nombre aujourd'hui dans lesquels l'action humanitaire s'est déroulée ou a tenté de se développer, quelquefois sans grand succès, parce que c'est très difficile de pénétrer dans un pays tel, dans le damier des tribus ou les chefs de tribus, qu'on appelle aujourd'hui des dieux de guerre depuis la guerre de l'Afghanistan. Sans ces gens-là, on ne peut pas être protégé et on ne peut pas œuvrer valablement. Les gouvernements sont impuissants devant la puissance des chefs de tribus. Vous parlez des ponts. Les ponts CICR ont du reste amené Richard Deming, un Américain, à écrire un livre sur ces fameux ponts, ce qui m'a fait évidemment très plaisir. C'était des ponts, il n'y en a pas eu qu'un au Yémen, entre les tribus et le CICR, c'était entre un camp vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire entre les royalistes et les républicains. nous passions d'un camp dans l'autre, dans des no man's land, quelquefois très escarpés, jusqu'à des altitudes allant à proche des 3000 mètres. Mais puisque c'était dans un pays vraiment aux montagnes terriblement escarpées et dangereuses, mais sans ces ponts CICR, on n'aurait jamais pu venir en aide aux prisonniers.
Mais comment justement assurer malgré tout l'indépendance de l'institution du CICR dans une telle situation? Comment préserver un CICR apolitique?
Oh, c'est-à-dire comment le préserver? Le CICR a pour obligation absolue d'être neutre, impartial et apolitique. Et je dirais que tous ceux qui font partie de cette institution, qui n'ont pas cette capacité, qui est, selon moi, surhumaine, qui est hors de propos, en tout cas, hors d'un cerveau normalement constitué, être apolitique, neutre et impartial est une qualité étrange, mais indispensable pour œuvrer valablement en tant qu'humanitaire. Sans cette qualité-là, on ne peut pas approcher des frères ennemis.
Et justement, votre sentiment sur les perspectives actuelles de l'institution, pensez-vous que la doctrine et l'action du CICR ont changé ou vont être appelées à changer du fait de la nouvelle donne de l'après 11 septembre? En effet, certains acteurs de la lutte contre le terrorisme revendiquent actuellement l'avènement d'un nouveau droit, puisque les relations internationales auraient fondamentalement changé. On assiste à un mépris croissant des politiques pour le droit humanitaire. Alors, que peut devenir le troisième combattant face à ce que certains désignent comme une guerre globale contre le terrorisme?
Ah, madame, vous évoquez le troisième combattant. Honneur une fois de plus au docteur Junot.
Voilà.
Bien sûr, le troisième combattant, après Dunant, c'est mon idole. C'est l'idole de tous les délégués chevronnés du CICR, tous ceux qui ont vraiment accompli un certain nombre de missions. Ce troisième combattant n'est rien d'autre que cet homme qui va, entre les deux camps, essayer, tenter une action humanitaire pour aider, sauvegarder ou sauver ceci ou cela. Est-ce que le CICR a évolué ou va évoluer? Mais il est condamné à suivre la mondialisation, l'humanitaire est tout autant mondialisé aujourd'hui que tout le reste des activités de la communauté internationale. C'est dans cette mondialisation que j'aurais souhaité, j'aurais beaucoup aimé que l'idéal de la Croix-Rouge, écoutez, qui fait sourire un certain nombre de juristes, n'est-ce pas, qui croient qu'aujourd'hui on ne peut y aller qu'à coup de textes, de réglementations. Et quand on commence à trop réfléchir dans une action humanitaire, on ne fait plus rien. Et c'est le grand handicap des gens chevronnés et très cultivés sur le plan de la jurisprudence internationale. Pour bien les nommer, les juristes chevronnés, se trouve forcément paralysé à un moment ou l'autre, car dans une action humanitaire, j'ai presque envie de vous dire que tout est antinomique, même avec ou sans autorisation.
Et que peut devenir quand même le CICR quand justement il apparaît que de plus en plus le droit humanitaire est une option et non plus une obligation? Comment peut se poser l'institution par rapport à ça et montrer toute la pertinence actuelle de son travail?
Vous savez, je fais confiance au CICR, c'est pas tout à fait le mot juste. Je fais confiance à l'histoire à venir. Le CICR, si j'ai raison, est une institution sacrée, unique et irremplaçable. Et selon moi, les gouvernements, quelle que puisse être leur mauvaise humeur contre le CICR à un moment ou l'autre de ses actions, les gouvernements ne laisseront jamais disparaître cette institution. J'ai bien peur peut-être que si les grands responsables sont conscients de cela, ils se reposent peut-être un peu sur cette protection sacrée qui couvre l'institution. Un jour ou l'autre, il continuera d'évoluer et se rapprochera peut-être de ce que fut l'action du passé des hommes du CICR.
Alors André Rochat, vous parlez de nombreuses fois, vous évoquez Henri Dunant dans le livre, vous vous estimez être une sorte de successeur de ce, vous avez essayé de vous attacher à être au plus près de son idée, et vous écrivez au début du livre à propos d'Henri Dunant, ce fou de Croix-Rouge. Alors l'adjectif fou, y a-t-il un sentiment d'absurdité de sa condition lorsque l'on est un humanitaire sur le terrain face à la permanence des guerres, face à un travail qui sera toujours à recommencer?
Votre question est ambiguë et ma réponse sera ambiguë. L'absurdité dans une action humanitaire. Combien de fois me suis-je demandé ce que je faisais là? Et si ce n'était pas absurde que, en suivant un idéal, au point où nous l'avons suivi, car je n'ai jamais été seul, vous pensez bien, il y avait toujours autour de moi de nombreux collaborateurs, meilleurs que moi, dans bien des domaines, où notre action frôlait l'absurde dans les risques que nous prenions pour atteindre les buts que nous nous étions fixés. Et ça, dans le droit d'initiative, c'est à la seule décision des hommes chargés d'une mission. Ils y vont ou ils n'y vont pas.
Alors, pourquoi dites-vous que finalement Henri Dunant était un fou de Croix-Rouge? Avait-il une idée révolutionnaire profondément?
Écoutez, un fou de Croix-Rouge, après Dunant, il y en eut beaucoup d'autres, selon moi. Les fous de Croix-Rouge, je leur ressemble un peu. C'est ceux qui veulent aller jusqu'au bout pour rendre l'impossible possible. Et ça m'est arrivé très souvent.
Vous dites même que, par exemple, en Israël, dans le conflit au Proche-Orient, ce qui était impossible, la Croix-Rouge, finalement, l'a rendu possible.
Exactement. Imaginez-vous, entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a 50 ans que ça dure, pour aller entre ces deux camps, il faut vraiment des hommes qui aient de l'estomac, je vous assure.
Et continuer malgré tout sa lutte contre la souffrance humaine envers l'hostilité et l'indifférence des puissants, est-ce que ce n'est pas finalement une forme de folie et cette folie n'est-elle pas nécessaire?
Je n'ai pas très bien compris votre question.
Donc vous, tous les jours, vous recommencez, vous vous rendez compte que finalement les guerres sont permanentes et devant tant de souffrances, devant la souffrance qui recommence chaque jour, n'y a-t-il pas une forme de folie à s'entêter, à continuer? Et cette folie n'est-elle pas nécessaire que les gens continuent malgré tout, même si du dehors, cela semble souvent incompréhensible?
Vous savez, dans le temps qui a passé, qui passe, vous avez évoqué tout à l'heure le bon samaritain. Le bon samaritain, ça date d'il y a fort longtemps. Personne n'a inventé l'humanitaire. Depuis toujours, les hommes s'entretuent. Nous vivons dans une période abominable où la souffrance du monde, des peuples du monde, est inqualifiable. Je répète ce que j'ai dit l'autre jour chez vos confrères. C'est indigne de la communauté internationale, indigne ce qui se passe actuellement dans le monde. Le Proche-Orient, naturellement, mais plus proche puisque je le connais bien. Et s'il n'y avait plus d'action humanitaire, alors que les guerres qui se confondent dans le terrorisme, guerre de libération et de tout ordre, deviennent si dangereuses, si inhumaines, s'il n'y avait plus d'action humanitaire, où irait donc la pauvre humanité dans laquelle nous vivons?
Tout à fait. Et donc c'est par le sacré de l'institution du CICR que vous voyez une solution. Alors vous évoquez à nombreuses fois ce caractère sacré. Est-ce que le sacré fait référence à la croix de la bannière du CICR, à l'idée, au geste humanitaire?
Oui, le sacré, ce terme que j'ai employé assez souvent, et il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de monde avant moi qui ont parlé de cela. Je l'ai trouvé une fois dans des textes du CICR, du reste. Je pense que, avec Émile Pola, le philosophe, j'ai dit que le sacré amenait au sacrifice, mais interdisait le sacrilège. Et c'est tellement vrai par rapport à une mission du CICR qu'une mission du CICR ne peut se situer que dans le sacré. Et pour accomplir une mission du CICR, très souvent, le délégué va jusqu'au sacrifice, hélas, et quelquefois jusqu'au prix de sa vie. On pourrait dire qu'il n'y en a pas eu tellement. Eh bien, il y en a eu beaucoup trop de délégués qui sont morts ces dernières années. Et c'est là où l'on peut imaginer qu'on est bien dans le sacré.
Et est-ce que ce sacré peut reposer aussi sur l'acte d'amour qui est de se porter à l'aide de populations. Comme justement vous disiez, si l'on n'aime pas les gens, il vaut mieux s'abstenir.
Oh, c'est exact. Je pense qu'une action humanitaire dans un conflit, je parle là vraiment du champ de bataille. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas s'approcher. Vous ne voulez plus vous approcher s'il n'y a pas d'amour. Et là, écoutez, je ne fais pas profession de foi. J'ai appris cela par les actes de tous ceux qui m'ont précédé. Tout d'un coup, on est transporté pour porter secours à ceux qui vont mourir ou à sauver ce qu'il en reste. Et c'est un acte d'amour, sans aucun doute, qui ne dit pas son nom. Vous savez, parler d'amour, ça fait un peu rire dans les officines de tout ordre.
Et alors, qu'est-ce qu'on laisse de soi quand on quitte le terrain, justement en ayant apporté cet amour et beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir? Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup tout s'arrête d'un jour à l'autre? Comment se réhabilite-t-on dans une vie de tous les jours, hors du terrain, hors des sentiers de la guerre?
Vous savez, je pense que lorsque vous avez sauvé ne serait-ce qu'un seul homme d'une mort certaine ou d'un destin effroyable, vous vous trouvez dans un état d'esprit transcendé par le sacré. Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie de valable, quelque chose que les autres ne font pas, n'ont pas fait. Et en cela, un délégué a beaucoup de chance. Celui qui a fait une mission et qui s'est rapproché vraiment de la souffrance humaine, a rencontré la misère du monde, et quand il a pu la soulager, ne serait-ce qu'un instant, pour mieux abandonner plus tard les victimes lorsqu'il devra s'en aller lui-même, c'est une partie de vie qui ne s'oublie pas. Elle marque un homme pour toujours.
Et le sacré, c'est aussi le fameux emblème protecteur de la Croix-Rouge, donc qui fait reconnaître l'institution, mais qui permet aussi de protéger les gens qui travaillent pour elle, de protéger des sites. Alors aujourd'hui, il semble que cet emblème soit de plus en plus contesté, de moins en moins reconnu. Il apparaît même que les délégués ne sont pas toujours protégés sur les activités dans lesquelles ils travaillent, sur les champs d'activité, par l'emblème protecteur. Que peut devenir l'action du CICR? Est-ce que les délégués ne sont plus en sécurité? Est-ce que le CICR sur le terrain n'est plus en sécurité aujourd'hui?
Les délégués n'ont jamais été dans une totale sécurité sur les champs de la guerre. Il y a ceux qui, bien souvent, cramponnés aux manches de leur drapeau, ont cru qu'ils étaient intouchables. Ben, quelquefois, on les a quand même tués. Mais il est vrai que le signe protecteur, comme on dit et comme on l'écrit, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce signe qui est le second signe reconnu universellement aujourd'hui. Il y avait, au temps du Shah d'Iran, le lion et soleil rouge, qui a été aboli depuis l'arrivée de M. Khomeini. Mais vous parlez du signe de la Croix-Rouge. Vous savez, la Croix-Rouge est connue universellement, sur la planète entière aujourd'hui. Je crois que dans les jungles les plus reculées, la plupart des indigènes savent ce que c'est que cette Croix-Rouge, même peut-être s'ils n'en ont jamais vu. C'est un signe sacré, c'est le cas de dire, mais totalement, encore une fois, hors de toute connotation religieuse. Le signe du croissant rouge a été doté au monde islamique, qui représente 1,5 milliard environ d'individus sur la planète aujourd'hui. On ne peut pas les ignorer. Le problème du signe, qui récemment a donné lieu, comme vous le savez, à une convocation de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui est l'organe supérieur du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par le gouvernement suisse, qui est détenteur des conventions de Genève, et à ce titre, il convoque cette conférence, pour faire adopter, à l'unanimité, c'était prévu comme ça, un nouveau signe, un troisième signe qui aurait été, ou qui est, un carré rouge, posé sur une pointe, sur une de ces pointes. Je vous dis tout de suite, je suis tout à fait contre cette initiative. Ce signe, d'abord, n'a pas été accepté à l'unanimité, quelque chose comme 17 pays, je crois, l'ont refusé, ce qui fait que le carré rouge, nouvellement reconnu par une partie du monde de la Croix-Rouge, ne sert à rien puisqu'il n'est pas reconnu universellement. Et là où on pourrait l'utiliser, prenons l'ambiguïté du problème d'Israël. Israël se voit depuis bientôt 50 ans refuser la reconnaissance du signe de sa société nationale humanitaire, c'est-à-dire l'étoile de David rouge sur fond blanc. J'ai toujours pensé que dans la situation très excentrique de ce pays, avec tous les problèmes qu'il rencontre et que les autres rencontrent aussi par lui, il était nécessaire qu'il puisse se démarquer avec sa société nationale, et je n'ai jamais compris pour ma part que le mouvement international de la Croix-Rouge refuse de reconnaître ce signe. Pourquoi pas ? J'estime que cela aurait facilité grandement les choses au Moyen-Orient. Mais malheureusement, trop de participants du monde islamique ont refusé ce signe et ont estimé que le carré rouge, après tout, pourrait éventuellement être utilisé par Israël à l'occasion de ses actions dans les territoires occupés. Je suppose, si c'est un non-dit, mais c'est bien de quoi il s'agit, en effet. Or, j'ai cru entendre qu'Israël avait décidé d'insérer l'étoile rouge de David, l'étoile rouge de David, dans le carré rouge, nouvellement reconnu, en partie. Tout cela me paraît absurde et inutile. Je ne vois vraiment pas la raison d'être de ce carré rouge. Une fois pour toutes, c'est une démarche de trop.
À certains moments de votre livre, c'est votre avis très tranché sur les conventions de Genève aujourd'hui. En effet, vous dites que les conventions de Genève, aujourd'hui, plus personne n'y croit et plus personne ne les respecte. Et on sait que donc la majorité de l'action du CICR repose sur ces conventions de Genève. Alors que devient le CICR si les conventions de Genève paraissent pour beaucoup presque obsolètes?
C'est vrai que j'ai écrit qu'on ne respecte plus les conventions de Genève de nos jours. Ce n'est pas nouveau. Du reste, vous savez, les lois, les règles sont faites pour être transgressées et pour bien se mettre dans la situation d'un conflit où les raisons d'État prédominent tout le reste. Et malheur à ceux qui, du reste, sont dans une guerre de libération, eux n'ont pas d'État, donc pas de raison d'État, et dans des conflits de cet ordre, qui sont les nouveaux conflits du temps que nous vivons, et qu'on a un peu inauguré de mon temps. Les conventions de Genève doivent être appliquées. C'est pour ça que le CICR est là. Lorsqu'elles ne sont pas appliquées, ce qui est très souvent le cas, on déploie des efforts considérables pour aller dire à celui qui transgresse, attention, vous transgressez les conventions, appliquez-les mieux, s'il vous plaît. C'est ça, la démarche du CICR. Les conventions de Genève, à mon avis, sont parfaitement bien écrites, contrairement à tous les juristes qui nous disent qu'elles sont dépassées et qu'elles ne valent plus rien. Ce sont des juristes des États qui disent ça. Selon moi, les conventions de Genève et les deux ou trois protocoles additionnels qui existent et intégrés dans les conventions pour les nouvelles armes prohibées par les conventions de Genève, qui n'existaient pas lorsque les conventions de 49 sont sorties. Eh bien, je pense que ces conventions resteront immuablement une règle pour les guerres et quels que soient les conflits, car dans ces conventions de Genève, il y a une règle humanitaire qu'il faut respecter à tout prix, le respect de la vie de l'homme.
Voilà. Et pour terminer, votre vision intime des choses, si je peux me permettre, c'est-à-dire que vous donnez votre ressenti tout au long du livre, mais aujourd'hui, si je ne m'abuse, vous avez 82 ans. Et quelle est votre vision? En quoi le CICR, votre passage par le CICR a changé radicalement votre vision des choses, votre vision de la vie, votre vision de l'autre?
Écoutez, d'abord, j'ai 80 ans et quelques semaines.
Excusez-moi, c'est déjà bien assez. Je vieillissais encore.
C'est déjà bien assez. Et les projets, on les limite à cet âge-là. Je pense qu'avec la sortie de mon ouvrage, l'homme à la croix, une anti-croisade, ce que malheureusement les médias ne répètent pas assez. Pourquoi une anti-croisade? Parce que notre action au Yémen m'est apparue 35 ans plus tard, une action, je dirais, anti-Ben Laden. Ben Laden reproche aux croisés d'avoir existé. Eh bien, nous, descendants de croisés peut-être, ou pas, nous sommes allés en terre fondamentaliste d'islam porter le secours. Et en cela, c'était une anti-croisade. Mon vœu le plus cher est que on trouve le chemin pour traiter de l'humanitaire en terre d'islam. Il n'y a pas de fatalité. Il faut absolument que l'on dégage une meilleure connaissance de l'islam en Occident. Nous ignorons trop des règles de l'islam que nous ne pouvons pas tout simplement fouler aux pieds, ou alors il faudrait s'abstenir et ne plus y aller. Ça ne me frôle pas l'esprit.
Et alors vous sentiriez la même chose, vous imaginez, aujourd'hui, sans cette expérience de vie? En quoi, finalement, l'homme qui est rentré au CICR n'était plus le même quand il en est ressorti? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour vous?
Oh, mais c'est pas possible qu'on soit le même en entrant et en sortant après pratiquement près de 8 années de front de guerre. C'est une situation. D'abord, c'est assez rare que, disons, un délégué soit maintenu sur le terrain dans des situations conflictuelles aussi longtemps. Je veux dire dans la même position, mais comme je couvrais pour finir une vingtaine de pays. C'était devenu pour moi beaucoup plus que une situation intermédiaire ou un stage ou une mission intérimaire. C'est devenu une vocation. C'était devenu une partie de ma vie. Interrompant cette action, je suis marqué sans doute jusqu'à ma mort par ce que j'ai appris et ce qui m'a été inculqué pendant ces années.
Je vous remercie, André Rocha. Alors, je rappelle le titre de votre livre, L'homme à la croix, une anti-croisade, aux éditions de l'Air.
Genève Active.ch